Imaginez confier les clés d'une voiture de sport surpuissante à quelqu'un qui n'a jamais conduit de sa vie. Le résultat est, assez prévisible.
Ah oui, le crash assuré.
C'est ça. Le moteur vrombit, l'accélération est juste phénoménale. Genre, le passage de 0 à 100 se fait en une fraction de seconde. Mais il manque un détail crucial sur le tableau de bord.
Lequel?
Il n'y a pas de volant.
Ouais, problématique.
Juste une pédale d'accélérateur collée au plancher. Et en fait, c'est très exactement la sensation que donne l'intégration frénétique de l'IA générative dans le développement logiciel aujourd'hui.
C'est l'excellente métaphore. Ouais. L'industrie nous promet une vitesse foudroyante, la capacité de générer des milliers de lignes de code en un clin d'œil.
Sauf que la direction finale de tout ce code, ça reste souvent un mystère absolu. Et le problème va même au-delà du simple accident ponctuel, non?
Ah, totalement. Dans l'ingénierie logicielle, la vitesse sans aucun contrôle, ça crée une véritable onde de choc.
C'est-à-dire...
Bah, en gros, l'équipe remplace un temps de développement qui était initialement maîtrisé par un temps de débogage complètement chaotique.
Ah ouais, on passe des heures à corriger la machine.
Exactement. On se retrouve noyé sous les hallucinations de l'IA et la dette technique devient très vite ingérable.
Ce qui pose parfaitement les bases de notre exploration approfondie aujourd'hui. On va décortiquer un ensemble de documents vraiment passionnants issus d'un dépôt GitHub.
Oui, il s'agit de la fameuse méthode Fourier.
Voilà, un cadre d'ingénierie conçu par Gilles Maury. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre ce paradoxe absolu de la vitesse avec l'IA.
Le fameux paradoxe, oui.
Pourquoi se ruer sur la génération de code avec une intelligence qui est purement probabiliste? Ça garantit presque un désastre. Et à l'inverse, comment on peut transformer cette probabilité sauvage en un résultat purement déterministe?
C'est tout l'enjeu, oui.
Décortiquons tout ça. Il y a d'abord un concept central dans ces sources. Ça agit comme une encre, et c'est presque philosophique, ce qui est assez surprenant pour une méthode technique.
Oui, ce concept fondamental, ça s'appelle le répondre de.
Le répondre de.
C'est ça, avec des tirets. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la méthode. En fait, le travail intellectuel y est modélisé comme un cercle continu.
Un cercle, donc on boucle.
Voilà. On passe de la phase de conception à la construction, puis au résultat, à l'évaluation, et enfin, à l'amélioration.
D'accord.
Et la règle absolue de ce cycle, c'est qu'à chaque étape, l'humain doit conserver la responsabilité finale. Il doit constamment pouvoir se dire, pourrais-je en répondre et devant qui?
C'est une distinction qui est vitale, en fait. Si une IA génère une faille de sécurité critique, elle va pas enfiler un costume pour aller s'expliquer devant le conseil d'administration.
C'est clair. Ni devant les clients lésés, d'ailleurs.
Oui, l'algorithme s'en fiche, il ressent aucune pression, c'est l'humain qui assume.
Exactement. L'humain délègue l'exécution, mais la responsabilité est indélégable par nature. C'est pour ça que la méthode refuse l'idée d'une IA laissée en roue libre.
Pour éviter la voiture sans volant, quoi.
Voilà, il faut imposer un contrôle absolu en amont. C'est ce que les documents appellent la phase de conception, ou le BMAD. BMAD.
Le BMAD. Et les sources décrivent ça littéralement comme une usine à certitude. Arrêtons-nous là-dessus parce que c'est fort comme terme.
Oui, c'est très visuel.
Historiquement, un développeur humain, il reçoit un ticket, une demande, et il utilise son bon sens pour combler les trous. S'il manque une info, il demande à son collègue.
Ou il interprète simplement.
C'est ça. Mais une IA, ça n'a aucun bon sens. C'est juste un modèle mathématique probabiliste. Elle va deviner le mot suivant.
Et c'est là que le BMAD intervient. Il est censé éliminer cette probabilité avant même que l'IA commence à écrire du code.
Comment ça marche concrètement sur le terrain?
Le processus implique ce que la méthode appelle 5 personas. Ce n'est pas juste une seule personne qui rédige une demande vague sur un post-it, quoi.
Ah, donc on multiplie les regards.
Exactement. On soumet chaque exigence logicielle, chaque user story, à 5 angles d'analyse différents. On a le regard du besoin métier, pour la valeur, le regard de l'architecture, pour l'intégration.
D'accord, l'intégration au système global?
Ouais. Ensuite, on a le regard de la sécurité, qui cherche les failles, le regard de la qualité, pour les tests, et enfin, la perspective du développement pur.
Donc, ces 5 perspectives passent la demande au panier fin. C'est un véritable tribunal pour les idées floues, en fait.
C'est un peu ça, oui. L'objectif final, c'est de produire un backlog qui est qualifié de « Agent AI Ready ».
Agent IA Ready. Le terme change tout. C'est plus une vague description, c'est un cahier des charges qui est mathématiquement clos.
Et la règle d'or pour sortir de cette phase BMAD, c'est d'obtenir un verdict formel. Le verdict passe. P-A-S-S.
Et si ça passe pas?
Bah, si la moindre zone d'ombre subsiste, si un seul personne a dit non, le verdict échoue. La tâche ne va pas à l'agent IA. Elle retourne en conception.
C'est intransigeant?
Totalement. C'est le premier filtre déterministe. Et c'est là que l'intégration de méthodes architecturales éprouvées prend tout son sens. La méthode insiste beaucoup sur le DDD.
Le Domain Driven Design.
Voilà. Et les principes solides aussi.
Bon, prenons juste un instant pour traduire ça. Pour ceux qui nous écoutent, le DDD, ça sert à quoi face à une IA?
En fait, le DDD force toute l'équipe, et donc l'IA, à utiliser un langage métier strict, sans aucun synonyme.
Par exemple?
Bah, si la compta parle d'un client, le code ne doit jamais utiliser les mots utilisateur ou acheteur, un terme unique pour un concept unique.
Ah, je vois. Parce que si on laisse flotter le vocabulaire, l'IA va s'y perdre.
Elle va inventer des tables parallèles, créer des trucs illogiques. En imposant ce lexique validé par le verdict PASS, on cadenasse complètement son espace de recherche.
Tu sais, vous savez, plutôt que la métaphore de l'orchestre qu'on entend souvent, je vois ça comme l'eau d'une rivière.
Une rivière? Comment ça?
Ben, l'IA générative, c'est comme de l'eau en haut d'une montagne. C'est une énergie probabiliste. Si on la laisse couler, elle se disperse, elle inonde tout au hasard.
Ah oui, je vois l'idée.
Le BMAD, le verdict PASS, le DDD, c'est la construction d'un immense barrage hydroélectrique avec des tuyaux en titane. L'eau coule toujours aussi fort, mais elle est contrainte dans un canal déterministe.
Pour générer de la valeur au lieu de générer des dégâts. C'est une super image. Et la méthode ajoute même des valves très précises sur ces tuyaux sous forme de tags de couverture.
Des balises obligatoires, c'est ça?
Ouais. La documentation liste des tags comme @happy pour le chemin nominal ou @négatif pour le comportement en cas d'erreur.
D'accord. Donc on dit plus juste à l'IA de faire attention, on lui dit voici le tag négatif, voici la réponse précise à renvoyer si le serveur tombe.
Exactement. Et on a aussi le tag edge pour les scénarios improbables et security pour la sécurité. On ampute sa capacité à inventer des solutions bancales.
Tout est objectivé, en fait. Mais le problème, c'est que la théorie et la pratique font souvent deux.
C'est sûr.
On a notre barrage, notre backlog parfait. Mais on connaît les IA, elles hallucinent. Elles peuvent se mettre à dériver en pleine nuit. Qu'est-ce qui empêche la machine de contourner nos tuyaux en titane?
C'est la compasse de la conception à la construction. Les documents opposent deux concepts clés, la guidance et l'enforcement.
La guidance et l'enforcement, donc le blocage déterministe.
Voilà. La guidance, c'est donner des instructions polies. Mais l'enforcement, c'est l'empêcher physiquement, matériellement, de commettre l'erreur.
Ok, mais comment on bloque physiquement une IA? On lui débranche le câble?
Presque, symboliquement parlant. Ça se fait par trois anneaux de sécurité. Le premier, c'est les permissions de l'agent, ce qu'il peut lire ou écrire.
Logique, la gestion des accès, basique.
Ensuite, le deuxième anneau, c'est les plugins autorisés. Et le troisième, c'est la véritable forteresse, le substrat.
Ah, le fameux substrat. Ce mot revient sans arrêt dans l'analyse. C'est quoi sur le terrain, finalement?
C'est une infrastructure technique intraitable. Ça se matérialise par des mécanismes comme les hooks-JIT, par exemple.
Un hook-JIT, pour schématiser, c'est comme un videur intransigeant à l'entrée d'une boîte de nuit.
J'aime beaucoup vos métaphores, aujourd'hui.
Merci. Mais c'est ça, non? Si le code de l'IA arrive sans la bonne pièce d'identité, sans respecter le formatage strict, le videur bloque l'entrée.
Il ne discute même pas, oui. Mais le substrat va plus loin. On a les pipelines d'intégration continue, la SI, les protections de branches et des sandbox.
Les bacs à sable où l'IA s'exécute sans casser la production.
Exactement. L'équipe a préparé ce terrain dès le BMAD, avec une approche TDD, le développement dirigé par les tests.
Le TDD, ouais, donc écrire le test avant même que la fonctionnalité existe, c'est redoutable. On pose le piège et ensuite on lâche l'IA.
C'est ça. L'agent génère son code et ça devient une froide validation technique. Soit ça passe les tests du substrat, soit c'est rejeté.
Sauf que c'est le substrat dont l'humain répond véritablement, du coup.
Oui. Si une faille passe, c'est pas la faute de l'hallucination de l'IA. C'est parce que le substrat humain n'était pas assez strict pour la rejeter.
Mais attendez, ça soulève un paradoxe super dangereux. Si on pousse cette logique, le backlog est parfait, le substrat est un champ de mine infranchissable pour le mauvais code.
Oui, et
bah, la tentation naturelle pour un ingénieur, ça va être de se dire, bon, le système est blindé, je ferme mon écran, je prends un café, l'usine tourne toute seule.
Ah oui, et les documents identifient ça comme un risque systémique majeur. Gilles Maury a une citation frappante là-dessus. Il dit... assez fiable pour qu'on cesse de vérifier le danger surveillé.
Waouh. Assez fiable pour qu'on cesse de vérifier. C'est brillant en un point de vue psychologique.
N'est-ce pas? La confiance excessive devient la plus grande faille.
C'est fou. Le cadre technique, aussi parfait soit-il, ne remplace jamais la supervision humaine.
Jamais. Parce que la machine ignore l'intention finale de l'entreprise. Elle exécute aveuglement. C'est l'humain qui garde la vision globale et qui répond de l'infrastructure.
C'est une inversion fascinante du discours ambiant, en fait. On ne transforme pas l'humain en ouvrier à la chaîne qui corrige les bugs de l'IA, on l'élève au rang de garant de l'architecture.
C'est exactement le but. La responsabilité morale de la production reste humaine.
Mais honnêtement, quand on regarde la méthode Foyer dans son ensemble, ça a l'air extrêmement lourd.
Lourd ? En quel sens ?
L'industrie nous vend l'IA comme un remède miracle pour aller plus vite. Et là, on propose de faire un BMAD massif, réunir 5 personnes pour disséquer chaque phrase, exiger un verdict unanime, construire un substrat complexe.
Oui, ça paraît contre-intuitif.
Totalement. On a l'impression que ça va rajouter des mois de réunion et détruire la promesse de vitesse. Pourtant, les sources disent que c'est le seul moyen d'accélérer. Pourquoi ?
L'incompréhension vient des métriques. L'industrie mesure la productivité de façon obsolète, genre le nombre de lignes de code par heure.
Ce qui n'a plus de sens avec l'IA.
Exact. La méthode impose un pilotage sur deux vraies métriques industrielles, le coût en tokens et le wall clock.
Ah, parlons-en. On quitte l'ingénierie pour entrer dans la stricte comptabilité, là. On évalue le code comme une matière première.
C'est ça. Le token, c'est l'unité de facturation du modèle. La méthode chiffre ça pragmatiquement. Par exemple, 0,85 euros par million de tokens en lecture et 2,55 euros en génération.
Des chiffres qui paraissent dérisoires, honnêtement.
Jusqu'à ce qu'on comprenne le gaspillage, ouais.
Parce que si on zappe le BMAD pour aller vite, on donne une demande floue à l'IA, elle tente un truc, ça échoue.
Et là, sans le bon contexte, elle va consommer des millions de tokens en arrière-plan pour comprendre son erreur. Elle tourne en boucle, elle hallucine.
L'entreprise brûle du budget cloud en temps réel, sans s'en rendre compte.
Le coût matériel explose. Mais la vraie perte, c'est le wall clock.
Le temps de l'horloge murale. Le temps réel qui s'écoule pour l'entreprise, quoi.
Voilà. Ça capture le temps de cycle de bout en bout, la latence du substrat, mais surtout, le temps de supervision humaine.
D'accord.
La méthode calibre ça en taille de t-shirt. Une taille S, c'est une demi-journée de travail humain. Un M, c'est 0,75 jours et un L engloutit une journée complète.
Et c'est là que le piège de la vitesse se referme. L'IA pond un code instantanément, elle est très rapide, mais le code contient des erreurs subtiles.
Un développeur humain doit ouvrir ce code qu'il n'a pas écrit lui-même, essayer de comprendre la logique tordue de la machine, il fait de l'archéologie, quoi.
Exactement. Et là, le wall clock passe brutalement de S à XXL.
Le développeur passe des jours à rattraper une erreur générée en 3 secondes.
C'est la conclusion mathématique du cadre. Faire un BMAD rigoureux, oui, ça demande un investissement initial en conception. Mais ça ampute drastiquement ces allers-retours chaotiques.
En imposant le DDD et les tags, on donne le chemin direct. Le gaspillage de tokens s'effondre.
Et le code passe directement l'enforcement du substrat. Le besoin de correction manuelle disparaît, le wall clock chute vertigineusement.
Le calcul est vite fait. C'est plus rapide de débattre 15 minutes sur une user story à 5 personnes que de passer 5 semaines à débugger un système corrompu en prod.
On en revient à un vieux principe d'artisanat. Mesurer deux fois, couper une fois.
Sauf qu'à l'ère de l'IA, on mesure 5 fois sous 5 angles, on configure une machine ultra précise et on laisse l'IA trancher à la vitesse de la lumière.
Sans jamais dévier du trait, ouais. Confier un projet critique à une IA probabiliste sans cette usine à certitude, c'est de la pensée magique. L'ingénierie exige qu'on élimine l'ambiguïté à la source.
Donc, pour résumer un peu ce qu'on trouve dans ce dépôt, l'IA n'est pas une baguette magique qui remplace la rigueur, au contraire.
Elle exige un niveau de rigueur bien supérieur au développement humain.
La machine a besoin d'un cadre déterministe absolu, d'un substrat inébranlable et par-dessus tout, d'un pilote humain conscient de son répondre d'eux.
Et ce qui est passionnant, c'est que la documentation s'élargit à la fin. Elle indique que ce cadre n'est pas cantonné à la génération de code.
Tionne que ça sert à arbitrer tous les choix hybrides, genre décider de passer au cloud ou garder des serveurs sur site.
Choisir entre un logiciel propriétaire ou de l'open source.
Opter pour une IA souveraine ou dépendre d'une API tierce. En fait, tous ces arbitrages stratégiques doivent passer par cette même logique.
La confrontation par les personas, la définition stricte des besoins, l'évaluation par le substrat, et la responsabilité finale. On maîtrise la complexité globale, pas juste la syntaxe d'une fonction.
Ce qui donne le vertige, honnêtement, quand on repense à l'évolution des modèles. On a vu comment construire le barrage, comment bâtir le substrat pour que notre voiture file sans quitter ses rails.
Oui.
Mais si l'on se projette vers l'avenir, si la méthode foyer et l'écosystème des agents IA finissent par maîtriser parfaitement toute la chaîne de conception grâce à ce cadre déterministe.
La question se pose, oui.
À quel moment verrons-nous ces mêmes agents commencer à nous formuler eux-mêmes ces recommandations d'architecture globale? Quand l'IA commencera-t-elle à nous dicter s'il faut migrer vers le cloud ou restructurer la souveraineté de nos données?
C'est la suite logique.
Et le jour où cette transition se produira, la véritable question sera de savoir si l'architecte humain sera intellectuellement prêt à s'asseoir face à cette complexité vertigineuse, à valider l'orientation de l'entreprise et à s'engager pleinement à en répondre. Je laisse tout le monde méditer là-dessus.